frères et sœurs, chers amis visiteurs aussi, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et vous soutienne. Le frère a commencé donc ce culte avec la lecture de ce livre de la Genèse au chapitre 1, où il nous a été rappelé que Dieu, il a créé toutes choses et lorsqu'il l'a fait, tout était bon. Et malheureusement, le péché est entré dans le monde et Dieu, dans sa grâce, avait prévu un moyen pour sauver les hommes et il a mis à exécution son plan en appelant un homme, Abraham. Il lui a demandé de partir de son pays. Et il a dit qu'il allait faire de lui une grande nation et que toutes les nations seront bénies en lui. Et en appelant Abraham, il a mis à exécution ce plan pour que Jésus-Christ puisse venir dans ce monde pour donner sa vie en rançon pour beaucoup et ainsi permettre à l'homme d'avoir la vie éternelle s'il met sa confiance en Jésus-Christ, le seul moyen de salut. Et donc, depuis quelque temps, nous voyons la vie de cet homme, Abraham, et nous apprenons à travers dans sa vie, lui qui est le père de la foi, nous voyons comment aussi vivre pour la gloire de Dieu en tirant de sa vie des leçons. Et il a fait des erreurs, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Et cet homme a mis sa confiance en Dieu. Et donc, nous sommes exhortés aussi à mettre notre confiance en lui, à vivre chaque jour par la foi. Et cet homme à qui Dieu avait fait cette promesse de lui donner une postérité, je ne savais pas comment les choses allaient se produire, puisque sa femme Sarah, elle était stérile. Et au départ, il pensait que c'était son serviteur Eliezer. Mais Dieu lui dit non, ça ne sera pas lui. Et puis, dans le chapitre 16, avec son épouse lui dit, ben voilà, va vers ma servante Agar. Et elle va te donner un enfant, elle va te donner cet héritier. Et la fois dernière, nous voyons que Abraham n'a pas su attendre le temps voulu par Dieu et on a vu aussi les dangers de ne pas user de patience lorsque le Seigneur nous met à cœur des choses mais on veut parfois faire à notre manière et on peut malheureusement se tromper. Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce chapitre 16 à partir du verset 7, puisque la situation était tellement compliquée pour Sarai et sa servante Agar que Agar a dû prendre la fuite. Elle est partie, elle a quitté Abraham, elle est enceinte. Et voir ce que le texte nous dit lors de donc, cette fuite. Alors, j'aimerais nous encourager de la part du Seigneur à avoir confiance en notre Dieu parce qu'il est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ce passage, on verra que le Dieu que nous servons est le même que M. Abraham a servi. Mais cette rencontre avec Agar, comment Dieu est intervenu dans la vie de cette femme. Alors, lisons ensemble ce passage de Genèse chapitre 16 à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. » Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta-el-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, frères et sœurs, ces 10 versets que nous avons lus mettent donc l'accent sur la rencontre de l'ange de l'Éternel. Plusieurs fois, il est parlé de l'ange de l'Éternel qui dit. Et de cette rencontre avec l'ange de l'Éternel et Agar, donc la servante de Sarai qui avait puis donc pris la fuite, elle est partie en direction d'Égypte. Donc cette servante, c'est une servante que Sarai a reçue lorsque il y avait la famine dans le chapitre 12 et ils étaient partis en Égypte et Abraham est reparti. On l'a expulsé du pays, mais Sarah est partie aussi avec Agar, la servante qu'elle a reçue. Et donc, Agar, elle a décidé donc de quitter sa maîtresse parce que sa maîtresse la maltraitait. Et elle est repartie en direction de son pays d'origine. Et c'est l'ange de l'Éternel, il est dit au verset 7, qui la trouve près donc d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de Chour, comme il est précisé. Et au verset 13, il est dit que Agar appela Atta-el-Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Parce qu'elle a dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Donc, dans sa fuite, Agar fait une expérience extraordinaire. Elle se rend compte que celui qui lui parlait n'était pas un ange comme un autre, mais que cet ange-là était un ange spécial, que c'était une manifestation divine sous forme angélique, puisqu'elle l'a appelé Atta-el-Roy, ce qui signifie « Tu es le Dieu qui me voit ». Vous savez, dans la Bible, il est beaucoup parlé d'anges que Dieu envoie pour exécuter ses ordres. Et on parle de l'ange du Seigneur ou de l'ange de l'Éternel. Lors de sa fuite à cause des menaces de Jézabel, Élie, il est parti et c'est un ange qui est venu lui dire, voilà, qu'il a touché et qui lui a dit de se lever et de manger. Et après, il y parlait de l'ange de l'Éternel, toujours cet ange-là. Dieu, il a envoyé un ange vers Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, pour lui annoncer qu'il allait avoir un fils et quelle serait la mission de Jean-Baptiste, donc l'ange Gabriel. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans chapitre 1, verset 13, nous dit que et là, dans ce chapitre 1, l'auteur, il cherche à montrer la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges, par rapport aux sacrificateurs, et même supérieur à Moïse. Et par rapport aux anges, il dit que, mais auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Et il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ses enfants. Et à deux reprises, dans, par exemple, l'Apocalypse, il y a l'apôtre Jean qui reçoit des révélations, il y a des anges, un ange qui lui parle, et à chaque fois, il a voulu adorer l'ange. Et dans Apocalypse chapitre 19, par exemple, au chapitre 22, Jean dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer ». Et tout de suite, l'ange lui dit « Mais garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service », l'ange dit, « et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus ». Et l'ange ajoute « Adore Dieu ». Donc l'ange a refusé que l'apôtre Jean, se mette à ses pieds pour l'adorer. Et au chapitre 22, c'est la même chose dont il est fait mention. Donc l'ange de Dieu ne veut pas, n'accepte pas que l'homme l'adore. L'ange du Seigneur veut qu'on adore Dieu seul. Et dans notre texte, il y a, et dans plusieurs autres passages, on voit qu'il y a une différence entre les anges qui refusent l'adoration et l'ange de l'Éternel, dont il est la première fois fait mention ici, l'ange de l'Éternel que Agar dit, que Agar appelle Atta El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc il y a une différence entre l'ange de l'Éternel là et les autres anges en général. L'ange de l'Éternel est à la fois, et le texte nous le montre aussi, il est à la fois distinct et un avec l'Éternel, étant semblable à lui. Au verset 10, l'ange dit à Agar, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange ne dit pas « Dieu va multiplier ta postérité ». Il dit « C'est moi, je multiplierai ta postérité ». Et lorsqu'on compare au chapitre 12, au chapitre 13, lorsque l'Éternel il parle à Abraham, il dit la même chose, « Je multiplierai ta postérité ». L'autre chose, c'est que l'ange de l'Éternel, là, parle comme étant Dieu lui-même, et sa personne est confondue avec celle du Seigneur. Au verset 11, il dit... L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'ange de l'Éternel vient à la rencontre de l'homme. C'est lui qui vient à la rencontre d'Agar. Il est venu à la rencontre d'Agar parce que c'est lui qui l'a trouvé près de cette source d'eau dans le désert pour lui faire part de sa volonté. Elle va l'appeler donc Atta El Roy, tu es le Dieu qui me voit. Et non seulement il est venu à la rencontre d'Agar, mais à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'ange de l'Éternel qui vient à la rencontre, par exemple, d'Abraham au chapitre 18, il y a trois anges qui sont là, qui viennent, Abraham les accueille. Et parmi les trois, il y en a un qui va dire à Abraham que à la période, l'année prochaine, à cette même période, ta femme, elle aura un fils. Et après, il va dire à Abraham ce qui va se passer concernant Sodome et Gomorre. C'est l'ange de l'Éternel qui va venir à la rencontre de Jacob. Lorsque Jacob il était parti, il a quitté son frère, et puis il a eu cette rencontre à Peniel. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu aussi à la rencontre de Josué. Lorsque Josué, il est là, il va aller combattre Jéricho, Mais avant d'aller combattre, il va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel et il va se mettre à genoux devant le chef de l'armée de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui va à la rencontre de Gédéon, à la rencontre des parents aussi de Samson. Et cela, on le trouve dans Juges chapitre 6 et Juges chapitre 13. Donc, l'ange de l'Éternel dont il est parlé là, quand on étudie ces différents passages, parce que il faut voir les textes et puis voir ce que ces textes disent concernant l'ange de l'Éternel, on voit que l'ange de l'Éternel révèle la face de Dieu. Dieu, celui qui est esprit et que nul ne peut voir sa face. Mais l'ange de l'Éternel est celui qui révèle la face de Dieu. Lorsque Jacob, il va combattre avec un homme dans Genèse chapitre 32. Il va dire, j'ai lutté avec Dieu. Hein? Et c'est de l'ange de l'Éternel dont il s'agit. Le nom de l'Éternel, il est dit, est en lui. Et sa présence équivaut à la présence de Dieu. Dans un autre passage, aux parents de Samson, il va dire que son nom est merveilleux pour parler de lui. Et c'est... Dans Ésaïe chapitre 9, on dit que son nom est admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc, admirable ou merveilleux. Donc, dans tout cela, nous voyons que l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation visible de Dieu, une apparition de Dieu. Donc, avant sa venue sur terre, qui est relaté dans Matthieu, dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu parmi les hommes, mais déjà dans l'Ancien Testament, il intervenait aussi. Le Seigneur Jésus-Christ, et on l'a lu le texte de Genèse chapitre 1, était là dès le commencement, c'est lui qui a créé toutes choses. Et déjà là, il se manifestait aux hommes, il faisait connaître la face de Dieu aux hommes. Donc, Jésus, le Fils unique, dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est celui qui a fait connaître le Père. Après, il va dire... que celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, ce passage donc met l'accent sur la venue de l'ange de l'Éternel auprès d'Agar. On voit que c'est l'ange de l'Éternel qui vient donc à sa rencontre, qui la trouve là où elle est, près de cette source d'eau. Et j'aimerais vraiment l'insister dessus que c'est l'ange qui l'a trouvé. C'est pas Agar qui a cherché l'ange. C'est l'ange qui est venu à sa rencontre. C'est lui qui l'a cherché et c'est lui qui l'a trouvé. Alors que Agar était complètement perdu en route vers l'Égypte. Cette rencontre fait penser à celle de Jésus avec la femme samaritaine près du puits de Jacob, en l'évangile de Jean, chapitre 4. Le texte de Jean nous dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie pour aller en Galilée. Il fallait parce qu'il savait qu'il fallait qu'il y ait cette rencontre avec cette femme samaritaine, cette femme, comme tous les Samaritains qui étaient méprisés, rejetés par les Juifs. Il fallait passer par là. Il aurait pu faire comme les autres faisaient en son temps, faire un détour pour ne pas croiser un Samaritain. Mais non, lui, il a voulu passer par là pour rencontrer cette femme. Et cette femme va reconnaître en lui le Messie, va témoigner dans son village, et les autres vont dire que ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous avons entendu et nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu. Il fallait que Jésus aille à la rencontre de cette femme samaritaine. C'est lui qui est allé et c'est lui qui a pris cette initiative d'aller là. Et l'ange de l'Éternel, c'est lui qui était venu, qui a trouvé Agar alors qu'elle était perdue. Et là, il a montré toute sa sollicitude envers cette femme en venant à sa rencontre. Et c'est ce que fera le Seigneur Jésus-Christ, non seulement avec la femme samaritaine, mais aussi envers toutes ces brebis perdues. Toutes ces brebis perdues, comme un berger qui va à la recherche de cette brebis, il veut aller à sa rencontre. Il dit que quel est ce berger qui a 99 brebis et qui a 100 brebis et qui en perd une, il va laisser les 99 pour aller à la rencontre de cette brebis qui est perdue. Il va aller la chercher et il va la prendre, il va la mettre sur son épaule et il va la conduire. C'est lui qui va aller aussi à la rencontre de Zachée, ce publicain qui avait entendu parler de Jésus. Il va aller se mettre sur ce sycomore. Et Jésus qui passe, et Jésus va s'arrêter juste là. Il va lever la tête, il va lui dire, « Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. » C'est lui qui est allé trouver Zachée parce qu'il savait que Zachée était l'une de ses brebis. Le Seigneur Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être qu'aujourd'hui, là vous entendez la parole de Dieu, et si vous reconnaissez comme cette brebis perdue et que vous êtes un peu comme Agar, vous vous sentez complètement perdu, vous ne savez où aller, et là le Seigneur vient aussi à votre rencontre. Et si vous êtes là, c'est pas le fruit du hasard. Est-ce que comme Agar, vous allez prendre le temps de l'écouter et dire oui, et comme Zachée l'a fait, il va descendre et il va recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. L'autre chose, c'est que l'ange de l'Éternel, non seulement il la trouve, mais il montre là qu'il connaît parfaitement la situation de cette femme. Après l'avoir trouvée, il appelle Agar par son nom. Il la connaît parfaitement, il la connaît personnellement. Il lui rappelle aussi sa condition. Il dit, Agar, servante de Sarai. Il sait qu'elle est enceinte et qu'elle aura un fils. Il connaît aussi l'avenir de ce garçon. Il lui dit, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Il sait déjà tout l'avenir de cet enfant. Le Seigneur Jésus, il connaissait parfaitement Zachée. Il connaissait parfaitement ce publicain qui vivait à Jéricho. Et lorsqu'il fut arrivé à l'endroit où il se trouvait sur cet arbre, le Seigneur lève les yeux et dit, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. » Le Seigneur le connaissait parfaitement. Le Seigneur savait qu'il était un voleur. Le Seigneur savait qu'il trompait les gens. Mais il lui a dit, il faut que je demeure dans ta maison. Et là, ce qu'il a fait, Zachée a été complètement transformé. Et tout de suite, il a voulu réparer son tort, réparer ce qu'il faisait de mal. Et il a été un homme nouveau. C'est le Seigneur Jésus, ressuscité, qui vient aussi à la rencontre de Marie qui pleurait et Marie de Magdala qui était là le jour de la résurrection. Elle vient, elle voit pas le corps de Jésus et elle est complètement perturbée par cela et elle pleure. Elle voit un homme dans le jardin, elle pensait que c'était le jardinier. Et puis elle dit à cet homme, mais si c'est toi qui l'as pris, dis-moi. Et lorsque le Seigneur Jésus va dire Marie, elle va reconnaître son maître, Elle va dire, Rabboni, maître. Et le Seigneur, elle va vouloir toucher. Le Seigneur dit, non, non, ne me touche pas. Mais va dire à mes frères que je suis là. Il a prononcé le nom de cette femme, Marie. Et c'est là que ses yeux se sont ouverts. Elle a reconnu Jésus, son Seigneur qui est ressuscité. Le Seigneur connaissait parfaitement Saul, celui qui persécutait les chrétiens, celui qui, avec ses lettres, était en route sur Damas pour emmener les chrétiens, pour les faire emprisonner. Et le Seigneur Jésus va intervenir et il va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Paul va plier les genoux, il va dire, « Mais que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Le Seigneur le connaissait personnellement. Saul, il savait que c'était quelqu'un qui persécutait et va dire cela, mais il persécute tes enfants. Non, non, j'ai un plan pour lui aussi. L'ange de l'Éternel, ou le Seigneur Jésus, connaissait donc parfaitement Agar, il connaissait parfaitement Zachée, il connaissait parfaitement Marie ou Paul. Il connaît aussi, il vous connaît aussi parfaitement. Il vous connaît personnellement. Il sait quelle est votre situation et il intercède aussi pour vous. Il vient à votre rencontre et il veut aussi vous aider. Il veut vous prendre et il veut vous accompagner et il veut vous dire aussi ce qu'il a en vue pour vous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Le Seigneur Jésus, qui est omniscient, qui sait toutes choses, donc, il nous connaît individuellement. Il est le bon berger des brebis. Dans Jean chapitre 10, verset 3 à 4, il dit que le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, écoutez cette voix, la voix du Seigneur Jésus, qui vous appelle par votre nom et qui vous dit aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Qui vous dit, oui, je connais ton affliction, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes gémissements. J'ai entendu. Et là, le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel, va donc l'appeler par son nom, Agar, va lui rappeler sa position, servante de Sarai. D'où viens-tu et où vas-tu? Là, l'ange la pousse donc à s'interroger sur ses choix. Et Agar va répondre, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » Agar avait donc décidé de quitter la maison d'Abraham pour retourner dans son pays et retrouver sa vie passée. Alors pourquoi est-elle partie? On le sait, c'est à cause, verset 6, de Sarai qui la maltraitait. Donc, il faut se poser aussi la question, mais pourquoi Sarai maltraitait-elle sa servante Agar? Et là aussi, nous avons la réponse au verset 4. C'est parce que Agar la regarda avec mépris. C'est pour cela que Sarah a maltraité Agar, sa servante. C'est parce que au départ, lorsqu'Agar a appris qu'elle était enceinte, le texte nous dit, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Vous savez, quelqu'un a dit que la violence engendre la violence. Et en réponse au mépris de sa servante, Sarai a cherché à lui montrer son autorité en la maltraitant. On ne dit pas que c'est bien. C'est pas bien. Elle pouvait faire autrement. Mais la violence engendre la violence. Son mari lui a donné le feu vert. Son mari lui a dit, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Donc, en méprisant sa maîtresse, Agar a voulu sortir de sa position de servante pour prendre la place de la maîtresse. Elle a fait preuve d'orgueil. Et le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel, insiste sur ce point, lui dit « Agar, servante de Sarai, Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel donc lui montre qu'elle a fait le mauvais choix en voulant quitter sa maîtresse. Il lui demande donc de retourner vers sa maîtresse car c'est là qu'il y a la bénédiction et qu'elle doit s'humilier sous sa main. Et le Seigneur Jésus, par la bouche des apôtres, nous demande de nous soumettre à toute autorité établie parmi nous. Et dans le contexte des afflictions liées aux relations humaines conflictuelles, nous sommes exhortés à nous soumettre à nos autorités, à nos maîtres ou à nos patrons, à nos époux, à nos parents, aux uns et aux autres, toujours en cherchant à faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Alors, le texte de 1 Pierre chapitre 2 est significatif pour cela. J'aimerais vraiment vous inviter à lire ce passage. Je vais pas tout lire, mais dans 1 Pierre chapitre 2, verset 13, il dit donc, soyez soumis, 1 Pierre 2, verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est de la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Après, il dit au verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Après, il dit au chapitre 3, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la pureté intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Ainsi se paraient autrefois les sept femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et puis, voilà, et après, il faudrait lire la suite du passage. Donc, l'ange de l'Éternel lui demande de réfléchir à ses choix. Elle n'a pas pris la bonne décision en voulant quitter Sarai, mais il lui demande de retourner vers elle et de s'humilier, et qu'il lui fait aussi des promesses pour l'encourager aussi. Il lui dit qu'il va multiplier sa postérité et que sa postérité sera nombreuse. Et ce qui est bon de voir, c'est que Agar, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va dire, bon, tout ça, je n'ai rien à faire de tout ça, je vais retourner chez mes parents? Non. Qu'est-ce qu'elle va faire à la fin? Elle va retourner vers sa maîtresse. Elle va obéir au commandement que le Seigneur va lui donner. C'est ça l'enseignement pour nous aussi. Le Seigneur lui dit, retourne-toi, humilie-toi. Et elle va obéir à ce que Dieu lui demande. Le Seigneur lui dit, tu vas appeler cet enfant Ismaël parce que l'Éternel a entendu ton affliction. Dieu, il entend, il n'est pas insensible à nos souffrances, il n'est pas insensible à ce qui se passe dans notre vie. Il voit nos souffrances. Et dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur, c'est lui qui parle. Il dit, Apocalypse 2, verset 9, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Il dit, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Il dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Donc, le Seigneur dit, « Oui, je connais ton affliction, je connais ce que tu es en train de vivre. J'ai entendu tes cris. Ne crois pas que je reste insensible à tout ça. Mais retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi, il dit. » Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il a dit à Philippe, « Philippe lui dit, « Mais comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc le Seigneur Jésus, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, a montré qu'il est un Dieu plein de compassion et de miséricorde qui nous entend lorsque nous sommes affligés. Et comme Agar, il nous connaît parfaitement, il connaît notre situation et il n'y est pas insensible. Il est venu à la rencontre d'Agar qui voulait fuir loin de sa maîtresse qui la maltraitait. Il a su parler à son cœur en lui faisant des promesses concernant sa postérité et en lui demandant de retourner vers Sarai et de s'humilier devant elle. Le Seigneur Jésus s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes pour donner sa vie en rançon pour les pécheurs et pour leur montrer comment vivre une vie qui honore le Père. Et c'est lui qui nous a dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Après il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Continuons, frères et sœurs, à faire confiance à notre Seigneur malgré les afflictions que nous rencontrons, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a su éclairer et rassurer Agar qui faisait fausse route. Il saura aussi nous guider, nous soutenir pour que nous ayons une conduite qui soit digne de notre Seigneur. Donc soyons fidèles jusqu'au bout et il nous donnera, il est dit dans ce passage d'Apocalypse, la couronne de la vie si nous demeurons fidèles. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Les situations, les relations humaines sont compliquées. Et pour revenir à ce que disait Lefker, à cause du péché, c'est très compliqué. Ce que Dieu avait fait au départ, c'était bon, mais avec la puissance de son esprit, il nous permet de vivre différemment. Et si nous soumettons à sa parole, et si nous faisons ce qu'il nous demande, nous allons voir que nous pouvons vivre paisiblement les uns avec les autres. Nous pouvons vivre paisiblement dans nos couples, nous pouvons paisiblement entre parents et enfants, etc. Mais écoutons cette parole du Seigneur. Retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. J'ai entendu ton affliction, j'ai un projet pour toi et je prendrai soin de toi. Amen.